Vous écoutez le son de la Terre. Bonjour ou bonsoir à vous et bienvenue à cette édition du Son de la Terre. Mon nom est Vincent Cauchy et je serai votre hôte pour ce balado. Au cours de la prochaine heure, j'ai la chance, et je pèse ici mes mots, de recevoir une véritable sommité au Québec dans le monde de l'acériculture et du sirop d'érable, Stéphane Guay. Biologiste de formation, tout comme sa conjointe qui est impliquée également dans le projet Érable et Chalumeau, il a récemment lâché son emploi pour se lancer tête première dans sa passion, l'érable. Ça fait déjà quelques années que je le suis sur les médias sociaux et que je remarque à quel point la passion de ce véritable sommelier du sirop transperce l'écran. C'est tellement un passionné que c'est devant son évaporateur, dans son érablière de Kinnear's Mills, dans Chaudière-Appalaches, que Stéphane Guay m'a accordé cet entretien au début avril 2024. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cette entrevue que j'en ai eu à la faire. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Véritable sommité de l'érable au Québec, il prend une pause pendant la saison acéricole bien chargée pour venir jaser avec nous. J'ai la chance de recevoir au son de la terre Stéphane Guay de Érable et Chalumeau. Salut Stéphane, ça va bien?
Ça va très bien. Merci pour l'invitation.
Bien, ça fait un grand plaisir. Écoute, tout d'abord, j'aimerais, on est en plein cœur de la saison acéricole. J'aimerais ça si tu pouvais me faire un peu un portrait de la saison actuelle. Comment ça se présente en ce moment dans les forêts du Québec?
C'est vraiment une saison qu'on va dire étrange. Hein? C'est une qui a été très angoissante au départ pour plusieurs. Mais avec le temps, avec les années, j'ai fini par toujours dire aux gens que une saison normale, c'est exceptionnel. Et une saison exceptionnelle, c'est normal. Alors, partant de ce principe-là, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer parce qu'on ne connaît pas avec précision le mécanisme de la coulée.
Okay.
Il y a encore des choses qui nous échappent dans ce mécanisme-là et on a des craintes, on traîne avec nous comme des boulets toutes sortes de légendes rurales sur les sucres qui vont finir parce que le pic est sorti, les merles sont arrivées, c'est fini. Il y a toutes sortes de choses qui nous annoncent la bonne saison, la mauvaise saison. Ouais. Mais on traîne tout ça et puis on traîne ça parce qu'on ne connaît pas avec précision les paramètres. Là. Donc, début de saison absolument incroyable dans plusieurs régions où ceux qui ont entaillé de façon hâtive ont fait des récoltes beaucoup plus tôt qu'à la normale, mm-hmm. puis même des bonnes récoltes. Et après ça, on retourne au froid. Même des fois, c'est un petit peu trop froid en ce moment. Dans certaines régions, c'est un petit peu trop froid. On est à la limite des belles coulées. Fait que tu vois l'exemple de chez nous, mettons que j'ai eu peut-être une vraie super coulée, là, qu'on va dire que le taux de sucre est bon, mais sinon, on a eu des taux de sucre bas parce qu'il n'y a pas fait les bonnes conditions pour la reprise d'eau pour les érables. Donc, mais on va faire une belle saison.
Ouais.
On va faire une belle saison. Puis moi, quand les gens me disaient au début de l'année, « Oh, il fait chaud, ça va être mauvais cette année », moi, je disais aux gens, j'ai dit, si vous allez voir dans l'historique de production du Québec, les mauvaises années, c'est les années froides. C'est pas les années chaudes.
OK.
On craint les années chaudes, mais souvent, sont beaucoup mieux que les années froides.
Être meilleur, mais ça, est-ce qu'il peut y avoir un changement vraiment drastique, si on veut, avec des pics de température, dans le fond? Qu'est-ce qu'on recherche plus? Quelque chose de plus stable ou quelque chose de plus actif, si on veut, là?
Le meilleur indicateur pour annoncer à la fin de la saison qu'elle a été bonne ou pas, c'est le nombre de fois où on a eu alternance de température avoisinant moins 4 plus 4. C'est cette combinaison-là. Mais moi, j'ai découvert cette année que cette combinaison-là n'est pas coulée non plus dans le béton. Elle ne marche pas tout le temps. Il y a d'autres conditions dans le mécanisme de coulée qui font que ça peut même être juste ordinaire, une journée comme ça. Fait qu'il y a, il y a toutes sortes de paramètres. Puis, mais saison froide, quand le sol est gelé, là, la saison ne part pas, puis on manque d'écoulée. Fait que quand on a une couche de sol gelé d'une dizaine de centimètres, la neige fond, mais elle passe par-dessus la croûte, puis il n'y a pas d'accessibilité aux racines. Fait que ça, c'est les pires saisons qu'on peut avoir. Parce qu'il faut que le fond dégèle. Mais cette année, on a commencé, le fond n'était pas gelé du tout.
Non, on se demande même si ça a gelé. C'est ça. Ça a gelé à aucun moment, quasiment, là, cet hiver.
C'est ça. Fait qu'on avait les conditions pour des coulées hâtives. Et puis, c'est arrivé.
On parle de début de saison. Bon, tu disais, la normalité, c'est l'exception. Mais c'est quand même une saison exceptionnelle. On voit des rendements déjà quand même assez intéressants. Je me posais la question, est-ce qu'il y a une limite à ce qu'un arbre peut produire? T'sais, là, on voit du 8, 9 livres à l'entaille. Est-ce que biologiquement, là, ça c'est ton champ de compétences, est-ce que biologiquement, il y a une limite à ce qu'un arbre peut produire?
C'est sûr qu'il va en avoir une. Il va avoir une limite à ce qu'un arbre peut produire, mais tout ça va être dû au fait qu'on est limité dans ce qu'on peut aller chercher dans un arbre. Parce que, on va être clair, on perce un petit trou sur un gros arbre. Donc, on ne pourra jamais le vider de son sucre avec ce petit trou-là. Hein? Ça paraît comme évident, mais on devient de plus en plus bon. Puis, étant de plus en plus bon, mais on va en chercher un peu plus. Est-ce qu'on a atteint la quantité maximale qu'on peut aller chercher? Bien, un des meilleurs indicateurs qu'on peut avoir, c'est la croissance des érables. Moi, je vais te dire, l'érablière qu'on vient d'acheter, okay, le monsieur avant nous, il y a une année, il a fait 7 livres à l'entaille. Okay? Bon, il l'a fait juste une fois, mais on n'a pas un historique très long avec l'équipement neuf. Parce qu'avant ça, c'était des vieux tubes. Le monsieur a posé des tubes. Sur une des 3 années, il a fait 7 livres. Bon. L'année d'après, ça a été une très bonne année de croissance. Moi, je mesure la croissance des érables à chaque année. Je regarde si ça a été une bonne année. Et après ce livre, ça a été une bonne année. Moi, ça m'annonce que pour chez nous, là, ce livre, ça n'a eu aucune influence sur la croissance des érables. Pourtant, dans la littérature, on connaît des événements qui ont de l'influence sur la croissance des érables. Une grosse année de graines, l'année qui suit, c'est rare que c'est une bonne année de croissance. Parce que l'allocation qui a
Parce
été
que
donnée aux
l'énergie
graines
a été donnée.
a été donnée, elle ne sera pas donnée pour la croissance de l'érable. Ça veut dire que la portion de sucre qu'on prend est probablement encore négligeable pour se faire sentir au niveau de la croissance. J'étais plus jeune, j'ai pris beaucoup d'analyses de croissance dans des érablières. Puis à chaque fois que j'allais faire une analyse de croissance, je lui demandais depuis quelle année c'est entaillé ici. Puis à chaque fois, j'ai jamais réussi à trouver, mettons, que le monsieur disait, c'est la première année qu'on a entaillé, c'est en 72. Mais en 72, il n'y a pas de cassure. J'en vois pas de cassure.
Sur la progression
Sur la
de
progression de la
croissance.
croissance, il n'y a pas de cassure qui se passe au moment où les
OK.
gens commencent à entailler. Alors, on a dans la littérature seulement qu'un article actuellement qui nous montre qu'une érablière qui était déjà en faible croissance, le fait de l'entailler, ça l'a probablement nuit à sa croissance future. On a un article.
Un article sur
Un.
probablement des dizaines, voire
Ben,
des
oui, c'est
centaines.
ça. Puis, donc, pour l'instant, on ne semble pas avoir atteint le point de rupture.
OK. Puis dans le fond, fait que ce serait pas la limite ne serait pas au niveau de l'arbre, à proprement dit, ce serait plutôt au niveau de l'équipement qu'on a autour et de
C'est l'équipement.
l'amélioration de ces équipements-là, là.
Il y a encore de l'amélioration d'équipement à faire parce que ça veut dire que comme on ne va pas chercher beaucoup, ça veut dire qu'il y en a encore qu'on ne va pas chercher. Hein? Si on avait une influence sur la croissance, ça veut dire que là, on aurait atteint le maximum qu'on peut aller.
OK.
Fait que moi, pour moi, en ce moment, il n'y a pas d'indicateur qui me permette d'être inquiet. En tout cas, chez nous, moi, je suis ça de façon très précise, là. Chez nous, ce n'est pas inquiétant du tout. Puis là, on va voir cette année, on va faire combien. Nous autres, la saison n'est pas finie du tout. Il nous reste une bonne semaine de sucre devant nous. Puis on va voir, on va se rendre où dans notre production. Puis je vais refaire mon analyse de croissance à l'automne prochain. Puis on va voir on est où.
Parlant de votre installation, dans le fond, si on faisait un peu le portrait de quoi a l'air l'installation du j'allais dire le king du sirop, là, mais ça a l'air de quoi chez vous? Ça fait longtemps que vous avez votre érablière?
En fait, c'est depuis juin cette année.
Oh wow, OK.
On vient de déménager. On a déménagé pour se simplifier la vie, pour faire des capsules puis faire des petits projets de développement.
OK.
Bon, on disait toujours, nous autres, chez Érable Michel Mou, moi, Érable Michel Mou, je fais ça avec mon épouse Edith Bonneau, qui est biologiste aussi. Et puis, on disait toujours, on n'a pas le temps de faire les soins. Parce que c'est le gros moment pour faire des capsules, pour aller... Puis là, on a trouvé une érablière qu'on a le droit d'habiter dedans. Il y a une partie maison, mais l'érablière est dans un îlot déstructuré, puis c'est une vraie maison qui est attachée après la cabane. Donc, on vit là en permanence. Donc, on est toujours là à côté pour faire les capsules, puis aussi faire nos projets. Donc, on a réussi à trouver une érablière. On avait besoin pour nos projets d'un minimum de 1200 ampères. Ici, on a acheté avec un contingent de 2000. Puis, on avait le minimum qu'il nous fallait pour faire nos projets qu'on voulait faire. Puis, tu vois, on a commencé par tout changer les équipements. Nous, on a un partenariat de recherche-développement avec les équipements Lapierre. Ils nous font tester des équipements. Donc, on a tout changé les équipements. Notre premier objectif cette année, c'était de dire, faut s'attaquer aux petits producteurs qui en arrachent. Comment on fait aujourd'hui pour dire que les 3, 4, 5 000 en taille vont réussir à se tenir la tête en dehors de l'eau? Parce que embaucher des gens au salaire minimum où il est là pour faire du sirop, ça devient de plus en plus compliqué. Mais nous autres, on a décidé de tester un modèle qui correspond à notre besoin, nous autres, parce qu'on fait des capsules. C'est de dire on va travailler le moins possible. On a un contingent de 10 000 livres de sirop, nous autres. Puis, on s'est dit, on va faire notre 10 000 livres, mais avec un effort réparti
minimal
dans le temps. Ouais. Donc, on concentre au Brix, on est à Crum Brix.
OK.
Mais on garde notre concentré dans un petit bowl tank. Puis, ce concentré-là, nous autres, on va faire... Tu vois, on a quatre bouillages de fête cette année. Nous autres, quand on part l'évaporateur, on le part parce qu'on va faire trois barils.
Mm-hmm.
Puis pour ramasser trois barils, ben moi, il faut que j'en ramasse de l'eau parce que j'enlève 95 % de l'eau. Là.
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Bon, et puis on a un évaporateur haute performance qui prend presque pas de bois. Donc, c'est pas beaucoup de travail, toute la portion transformation. La portion dans l'érablière, c'est la même chose. Ça se passe bien parce qu'on a le système de détection de fuite. Donc, j'ai pas à aller faire les fuites s'il n'y en a pas. Toute l'opération se fait de façon facile. Fait que dans un cycle normal, à la fin de la journée, je vais partir le concentrateur, j'entrepose la sève, je pourrais aller travailler, nous autres on travaille, on fait des capsules, on fait des projets. Et puis, une fois de temps en temps, on fait bouillir une demi-journée.
Fait que ça devient presque un side, comme on dit, mais en même temps, ça peut aller s'appliquer à des plus petites érablières, puis l'objectif ultime, ce serait d'automatiser presque.
Sans l'automatiser, c'est que quelqu'un n'est pas obligé de lâcher sa job pendant les sucres.
Mm-hmm.
Nous autres, c'était ça qu'on se disait. Nous autres, là, si on veut continuer à faire des capsules pendant les sucres, ben, il ne faut pas qu'on fasse juste courir les fuites, concentrer, bouillir. On n'y arrive pas, là, sinon. Là. Ça se peut pas. Ah. On fait un métier qui n'est pas compatible avec faire les sucres.
comme pour beaucoup de gens, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une période très, très, très intense. Fait que pour des petits producteurs, ça devient... C'est quelque chose, là.
C'est ça. Ouais, tu vois, regarde, aujourd'hui, je vais concentrer à la fin de la journée, puis demain matin, je vais partir mon évaporateur pour la cinquième fois.
OK. Ben, tu sais, moi, je pense que juste le fait qu'on puisse se parler ce matin, je le mentionnais aussi d'entrée de jeu quand on a fait une pré-entrevue avant. Il y a beaucoup de producteurs acéricoles que j'ai essayé de contacter pendant la période des sucres et c'est non, c'est impossible parce que c'est le moment où justement ils sont sur la job 24-7 à, à bouillir, à courir fuite, à se promener. Tu sais, ça devient très, très, c'est très, très intense comme période, là.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis on n'a pas le choix, il faut être imaginatif dans la vie parce que sinon, des petites érablières, il n'y en aura plus. Là, on s'en va toujours vers... tous nos systèmes agricoles s'en vont vers grossir, grossir, grossir parce que le point de rentabilité, il s'éloigne tout le temps.
Hein. Oui. Ben, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a encore... Est-ce qu'il y a encore place au folklore en acériculture? Je dis folklore, il ne faut pas le voir d'un point de vue péjoratif. Là, c'est très. Est-ce qu'on tend vers l'industrialisation ou est-ce qu'il y a la place pour les deux dans ce monde-là?
Il y a clairement la place pour les deux. Nous autres, chez Érable et chez Lumeau, on s'intéresse aux deux énormément. D'ailleurs, autant là où on travaille pour maximiser la modernité dans l'érablière. Écoute, on est rendu dans des choses très pointues comme le contrôle des pompes vacuum. Là, on essaye de développer des méthodes de contrôle de pompes. Mais en même temps, on travaille avec un organisme sans but lucratif qui s'appelle la Commanderie de l'Érable, qui, eux, veulent avoir une appellation pour les sirops artisanaux.
OK.
Nous autres, bénévolement, on écrit le cahier de charge de ça pour les aider. Donc, fait que tu vois, nous autres, moi, je pense qu'on doit aider les gens qui veulent être artisanaux. Il faut qu'il y ait une façon de se faire reconnaître parce qu'il y a quand même une grande injustice, on va le dire. Là. La canne industrielle, souvent, tu vois encore un cheval dessus, là, puis des chaudières. Mais c'est pas vrai, ça, là. Hein?
Ah oui.
Celui qui le fait vraiment avec les chaudières, ben, je pense que c'est important qu'il se démarque dans le marché. C'est important qu'il puisse charger plus pour son sirop, parce que veut pas, c'est une rareté. Mais c'est surtout important qu'il y en ait qui continuent d'en faire pour pas qu'on dévie de la saveur. Parce que la référence de la saveur d'érable, c'est les sirops artisanaux. Moi, les projets que je fais ici cette année, je concentre à 30, et puis j'essaye d'imiter du sirop artisanal, mais pour ça, il faut que je me rappelle ce que ça goûte.
Oui. Puis déjà, concentré à 30, à moins que je me trompe, c'est plus difficile d'aller chercher quand on part avec de l'eau plus concentrée au début?
Bien, en fait, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on, comme on écrit le cahier de charge pour l'artisanal, là, on connaît les temps de résidence moyens pour les gens qui sont artisanaux. Là, dans le trajet d'un évaporateur, si on regarde le sirop, là, le transit dans un évaporateur quand tu n'as pas de système de filtration membranaire, OK, ben, est d'environ une heure et quart. C'est le transit moyen entre le moment où la molécule de sucre rentre en arrière puis elle sort en avant. C'est sûr que c'est un système en continu, fait que il y a des points morts, mais en moyenne, une heure et quart à une heure et demie. Nous autres,
ça, c'est le temps de...
Le temps que la molécule de sucre reste dans l'évaporateur.
C'est ça, OK.
Elle rentre à 2 % de sucre, elle sort à 66, puis ça va y prendre un trajet d'une heure et demie environ. On arrondit à une heure et demie. Bon. Ben, nous autres, on concentre à 30, mais actuellement, on reste une heure et demie dans notre évaporateur. On a tout calibré pour rester une heure et demie.
Fait que vous allez chercher encore plus de saveur?
Ben, il y a même des fois qu'on fait 2 heures. On fait plus de cuisson que le sirop artisanal.
OK.
Mais je peux le faire parce que la personne qui est artisanale, elle a des milliers de gallons d'eau à évaporer. Moi, quand je pars mon évaporateur, j'ai presque pas de gallons d'eau évaporée. Tu sais, on a un contingent de 10 000 livres, puis on a un évaporateur de 2,5 par 8. Mais j'ai le temps d'évaporer. Quand même, comme je vais évaporer peut-être 8 fois dans l'année, bien, ces 8 fois-là, je peux prendre mon temps. J'ai le temps de faire du très bon sirop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre ça, je mets mon feu un peu plus bas. Donc, nous autres, on est au bois. Donc, on met le contrôle du feu dans l'évaporateur. On maintient la température pour avoir un bon bouillon, mais pas extrême. On bouille 2,5 pouces à peu près d'épais dans les casseroles à fond plat pour avoir justement, une fois calculé, un transit minimal d'une heure et demie. Puis à ce moment-là, ben, les sirops très, très pâles, on n'en fait pas, sauf en début de saison. Mmh. Mais on est capable de faire du ambré, nous autres. Là. On en a fait du ambré l'autre jour. Là. On s'est dit, on fait du embray aujourd'hui, on a fait du embray. On est capable de faire ce qu'on veut hein, avec ça.
Vous pouvez vous le permettre.
On peut se le permettre, mais en même temps, une fois que tu as enlevé 95 % de l'eau, là, ben, c'est parce que le temps de bouillage est tellement réduit que tu peux te permettre de l'augmenter de 20 % pour faire du bon sirop. C'est pas beaucoup plus que ça. Hein, parce que le monde, là, ce qu'ils ne comprennent pas dans le temps de résidence dans un évaporateur, c'est que là, ton poêle, là, OK? Si tu mets un pouce d'eau dedans puis que ton transit est de 22 minutes, si tu mets 3 pouces, ton transit va être rendu d'une heure, mais ton taux d'évaporation est le même. C'est juste ton premier sirop qui est plus long à sortir. Mm-hmm. Une fois qu'il est sorti, la machine est partie puis elle évapore encore autant de gallons d'eau à l'heure. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pas une question de temps. C'est une question de façon de faire.
C'est une question de quantité aussi, d'épaisseur.
Exactement. Fait qu'autrement dit, nous autres, on calcule le sucre résiduel dans notre évaporateur. Fait qu'on s'arrange toujours, nous autres, en ce moment, là, on s'arrange pour qu'il y ait à peu près 3/4 de baril qui dort dans l'évaporateur une fois qu'il est en route. Puis comme on prend presque 2 heures pour le faire, bien, à ce moment-là, ça prend 1h30 pour le transit du sucre.
En tout cas, c'est très, très, très... beaucoup de mathématiques là-dedans. Oui, de la biologie, mais beaucoup de mathématiques.
Oui. On s'amuse pas mal là-dessus. mais en même temps, moi, j'ai absolument besoin qu'il y ait des gens qui continuent d'être artisanales pour me rappeler c'est quoi cette saveur-là. Parce que c'est facile de dévier. C'est très, très facile. Les gens là, qui ont des évaporateurs très performants, là, la première année, ils vont dire « Oh, mon sirop, il goûte moins qu'avant. » Mais l'année d'après, ils s'en rappellent déjà plus c'était quoi leur évaporateur avant. Puis là, ils goûtent de moins en moins. Puis là, ils sont focussés sur faire le plus beau, hein, entre guillemets, le plus beau sirop, le plus pâle.
Ouais.
Et ça vient avec une perte de saveur.
Bien, parlant de la saveur, il y a un retour quand même depuis quelques années vers des sirops plus foncés quand même, à moins que je me trompe. Là. Il me semble que le désir d'aller chercher cette saveur-là est un peu plus présent au Québec chez les consommateurs.
Premièrement, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Il y en a une du Centre Acer qui a montré que les gens ils choisissaient pas les sirops nécessairement les plus pâles. Donc, on voit tout de suite que contrairement à ce qu'on pensait, à ce que beaucoup pensaient, beaucoup de personnes pensaient qu'ils préféraient les sirops pâles, alors qu'en réalité, ils préféraient un petit peu plus foncé que ce que leurs yeux leur demandaient. Mm. Alors, ça, il y a beaucoup de consommateurs qui ont pris conscience de ça. Donc, mais le système de prix est quand même basé sur la couleur et le plus pâle vaut plus cher. Alors, on ne se mentira pas que quand tu vends ton sirop en baril, plus il est pâle, plus il vaut cher. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même ça le message. Mm-hmm. Donne-moi-le le plus pâle possible. Mm-hmm. C'est que nous autres, la semaine passée, là, quand on a décidé qu'on faisait du ambré, on savait qu'on perdrait des sous. Là.
Au lieu de faire du pâle.
Ah oui, on aurait fait du doré facilement, là, mais on a décidé de faire du ambré.
Puis ça permet de privilégier justement le goût.
Oui.
Est-ce que c'est un peu comme le même... On jase, là, mais est-ce que ça devient un peu comme la même façon de penser que pour le vin, par exemple? Tu sais, on a du vin de cuisine, on a du vin de qualité.
Imagine-toi que tu irais choisir ton vin selon la couleur. C'est vrai, on choisit en blanc et rouge, là, OK? Mais imagine-toi que sur l'étiquette, ce qui serait écrit, c'est que c'est du doré.
C'est du palote.
Non, mais... C'est un on vit avec un système de classement du sirop qui était vrai avant. Avant, là, quand tout le monde était en chaudière, là, quand ça coulait, ça goûtait l'érable tout de suite. Nous autres, quand on est au tube en haut à Cuba, on récolte bien avant la chaudière d'habitude. Pas toutes les années, mais... Puis, au début, ça ne goûte pas l'érable. L'érable n'est pas réveillé. Les molécules ne sont pas là. Les molécules qui... On fait un sucre qui ne goûte pas grand-chose. Mm-hmm. Mais historiquement, là, celui qui était capable de faire du sirop pâle qui goûte l'érable, c'est sûr que c'est le meilleur. Parce que le goût d'érable n'est pas masqué dans le caramel. C'était une qualité absolument recherchée. Parce qu'il fallait être extrêmement propre pour réussir à faire du séropore à la chaudière avec les équipements d'autrefois, parce que le transfert de chaleur là, dans l'inox est beaucoup moindre que dans le galvanisé. Là. Les pannes en galvanisé, là, faire du séropore avec ça, il fallait que tu sois vraiment très propre. Historiquement, c'était vrai. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Puis notre mode de sélection, ce n'est pas changé. On n'a pas plus d'informations. Mais toutes les industries sont vouées à changer. Et on s'en va nécessairement un jour. T'sais, on a vu apparaître avec le temps tous les crochets de défauts. Donc, tu vois l'évolution qu'on a. C'est sûr que toutes les industries, c'est le même. Hein? Quand on commence à mûrir, on va dire, l'industrie commence à mûrir, « Oh, les défauts, on ne les veut plus. » Puis là, c'est drôle. Les défauts sont de plus en plus sévères. Parce que ceux qui goûtent puis qui classent sont de plus en plus bons.
Ben, justement, là-dessus, ça m'amène un peu sur un autre aspect. Tu sais, avec le temps, tu t'es quand même forgé une réputation en ce qui a trait au goût du sirop, non seulement dans les diverses érablières. Je me souviens avoir vu des vidéos où tu goûtes le sirop et tu es capable de dire exactement la façon. Écoute, ça me fascine, je trouve ça impressionnant. Comment est-ce que tu as réussi à développer cette expertise-là? Est-ce que c'est le temps, l'expérience, en même temps les papilles, ça oublie avec le temps, je ne sais pas?
Oui, les papilles, ça oublie, c'est sûr, mais on goûte du sirop à l'année. Hein. Je te donne un exemple, OK? Tu ouvres le frigidaire chez nous, là, OK? Il doit avoir en ce moment 4 sirops différents d'ouvert. Puis je te mens pas, là. Je ne vais pas voir, là. Dans le congélateur, des fois, on peut en avoir une douzaine d'ouverts parce qu'ils sont en dégustation, parce que lui a gagné le concours l'année passée, je veux m'en rappeler. Tu sais,
c'est pas vos sirops, c'est des sirops.
Des sirops, oui, des sirops. Là. Des fois, il y en a un, j'ai traîné pendant des années, il était tellement bon, mais tellement bon. Là. Puis il m'en reste encore un petit pot, là. Puis j'arrive pas à m'en séparer.
Wow!
Mais en gros, c'est que c'est toute cette fascination que j'ai pour le mécanisme de la coulée. Puis là, ce que tu fais référence, je sais c'est quoi le petit vidéo. J'étais avec Martin Ménard.
Oui,
puis là, il y a une dame, elle nous fait goûter son sirop. Puis là, il y avait un petit goût de bois. J'ai dit, madame, c'est quand il a plu, on était 2 jours sans que ça gèle le soir, puis là, ça s'est mis à goûter le bois. Puis là, elle me regarde un peu surprise que j'étais capable de dire quand est-ce qu'elle l'a fait, son sirop. Tu sais.
Ouais.
Mais ça, c'est parce que je suis à tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arbre? Puis y a-t-il une répercussion sur la saveur? Y a-t-il une répercussion sur le taux de sucre? Puis le mécanisme de coulée, on le connaît tellement pas, okay? Tellement pas beaucoup, que moi, aujourd'hui, là, je vais donner l'exemple de hier. Moi, cette année, j'essaye quelque chose de particulier. Je gère mes pompes vacuum différemment. Puis, alors que mes voisins sont rendus pour la plupart en 1,5 de pourcentage de sucre, hier, j'étais à 2,2.
OK.
Donc, oui,
pour ma gestion. Hein? Pour quelle raison?
Bien, c'est ça que j'essaie de. Je suis parti d'une hypothèse cette année qui dit que quand l'érable essaye de reprendre de l'eau, parce qu'on sait, tout le monde dit qu'à chaudière, c'est plus sucré qu'au tube. Il y a bien une raison. Puis la principale raison, c'est qu'à chaudière, ça coule juste quand l'érable est prêt à en donner.
Mm-hmm.
Au tube, on récolte plus longtemps en journée. Mais on prend le mécanisme, là, ce qu'on en connaît. Là. Quand ça refroidit, les gaz contenus au niveau des branches créent un vacuum qui fait monter l'eau dans l'arbre. On sait que les sucres sont déjà dans l'arbre au moment du début, puis que c'est la montée de l'eau qui va chercher les sucres dans le haut de l'arbre. Il y a plusieurs études qui ont montré que c'est plus sucré dans le haut, puis plus l'eau va monter haut, plus ça va être sucré. Bien, moi, je me suis dit, si j'arrête ma pompe plus vite, m'arrêter d'intercepter l'eau qui veut monter, elle va monter en haut, puis ça va recouler plus sucré le lendemain. Puis là, je suis tombé dans toutes sortes de choses que je soupçonnais pas. OK? Parce que là, en principe, si on dit quand ça gèle, OK? Quand ça commence à geler. Mais si ça commence à geler, mais que ça, ça concorde avec une dépression, ça ne va pas arrêter de couler. Fait que je ne peux pas juste me fier à température. Fait que là, je me fie à la pression atmosphérique, la température. Puis là, vraiment, là, on raffine de plus en plus le modèle. On a une connaissance qui est météorologue puis qui fait des prédictions météo pour chez nous. Puis là, il me dit la pression atmosphérique, elle s'en va en montant, elle s'en va en baissant. Puis là, je gère la pompe avec ça là, en ce moment. Là. Et puis, vraiment, là je viens de recevoir mon premier gros relâchage d'eau ce matin. Je vais aller prendre mon sucre tantôt, puis je vais voir. Hey, j'ai-tu réussi encore hier? Je vais-tu dépasser 2,2 que j'avais hier? Parce que moi, j'ai fermé de bonne heure hier.
C'est très, très, très... Je sens vraiment la ferveur scientifique à l'intérieur de tout ça. Juste tout à l'heure, j'avais une hypothèse, j'ai essayé de la confirmer en faisant ça. En quoi est-ce que justement le background de biologiste est tellement important là-dedans, dans cette recherche-là? Est-ce que ça vous aide? Ou...
Ben, en fait, le background biologiste, c'est la démarche scientifique. En fait. C'est de ne pas prendre pour acquis que ce qui se dit dans le champ, c'est vrai. Mm-hmm. Fait que là, ça nous prend une hypothèse. Puis tu sais, des fois, c'est des choses bien simples. T'sais, des fois, c'est simple. Il y en a, une des questions qu'on a le plus souvent, il n'y a pas d'hypothèse. Puis là, je suis là, mais pourquoi ils me posent cette question-là à chaque année? Pourquoi elle revient tout le temps? Là, ils disent, il faut faire une loupe par en bas quand on entend. Puis là, je réponds aux gens, c'est quoi l'hypothèse?
Pourquoi? Oui, pourquoi on fait ça?
Pourquoi on fait ça? C'est quoi que ça apporte? Puis là, ils me répondent, je ne sais pas. Bon, OK. Mais bon, moi, je ne suis pas capable de faire d'hypothèse. Je ne suis pas capable de juste essayer d'imaginer pourquoi ça aiderait. Fait que là, je ne peux même pas monter de projet parce que je ne comprends même pas à quoi ça sert. Bon, mais fait que là, dans le fond, j'essaie toujours d'avoir une hypothèse. T'sais, là, notre hypothèse qu'on a, il faut la démontrer à cette heure. Fait que nous autres, on va tout réinstaller la tubulure dans l'érablière cette année pour répondre à cette question-là sur la montée de l'eau dans l'arbre.
Il faut la démontrer, puis il faut éliminer tous les autres facteurs, là, parce qu'il y a tellement de facteurs différents et divers. Là.
Exact. Fait qu'il faut que tout soit pareil. Il faut que écoute, c'est pas facile à montrer. Moi, en ce moment, je mesure mes taux de sucre à tous les jours, puis je regarde la cheville où. Mais à la fin de tout, c'est que, tu sais, des fois, je pourrais avoir un taux de sucre plus haut, mais avec tellement moins d'eau que je vais produire moins.
Ouais.
Tu sais, comme à la chaudière, c'est plus sucré, mais tu produis moins, là. Mm-hmm. Clairement moins. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas que je me ramasse là non plus. Il faut que je trouve l'équilibre. Là.
Est-ce que, tu prêches beaucoup pour le développement du goût.
Ouais.
Est-ce que, selon ce que tu vois sur le terrain, est-ce que les producteurs ont changé aussi, eux aussi, leur façon de voir le développement du goût puis essaient de raffiner un peu plus? Est-ce qu'il y a une mouvance à ce niveau-là?
Bien, il y a une mouvance, il y a une préoccupation, mais c'est extrêmement facile de ne plus s'en rappeler. Parce que c'est bon pareil. C'est ça l'affaire. Non, mais c'est vrai. C'est bon pareil. Est-ce qu'il pourrait être meilleur? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il est bon? La réponse est aussi oui.
Ouais.
Fait que c'est difficile. T'sais, là, tu perds ta saveur tranquillement, chaque année un petit peu moins, jusqu'au jour où tu dis « Ah, celui de mon grand-père était meilleur, OK? » Mais tu sais que tu ne reviendras plus à ton grand-père, fait que tu vois ça comme quelque chose de d'inatteignable, mettons. Mais, tu sais, je te donne un exemple. Mais, un monsieur qui donne des conseils à cette école, il a un évaporateur électrique. Il dit « Moi, j'ai trouvé comment faire du bon sirop avec mon évaporateur électrique. » M'envoie une canne. Et puis, je prends. Moi, quand les gens m'envoient des sirops pour savoir, je prends le temps de goûter le sirop. Puis, si je trouve que, je pense qu'il a manqué de cuisson, je le refais cuire.
OK.
Je le refais cuire. Puis là, ce que je fais dans le fond, c'est que je le mets sur le rond-point. Je le fais cuire en ajoutant tout le temps un petit peu d'eau pour dire, mettons, qu'il reste au point d'ébullition du sirop. Je le maintiens 7 degrés Fahrenheit au-dessus. Puis là, à un moment donné, juste au nez, pof, ça se met à sentir différemment. Puis là, tu dis, il manquait 15, 20 minutes, 30 minutes. Puis là, ben, Là, je le fais, puis là, je dis, hey, non. J'ai dit, oui, tu as trouvé une méthode pour qu'il soit meilleur, mais il aurait pu encore être meilleur que ça. Il manque 15 minutes en cuisson intense. Là. Ça, c'est plaisant parce que la personne, elle le voit tout de suite. Tout de suite, tout de suite, il pouvait-tu être meilleur, mon sirop?
Puis, quand les gens vous envoient, quand les gens t'envoient des sirops, est-ce que c'est dans un objectif de s'améliorer ou dans un objectif de recevoir le sceau d'approbation? Stéphane Gay a aimé mon sirop, voilà, il est bon.
Mais tu, surprenamment, c'est pas toujours parce qu'il est bon. Les gens, mettons, ils ont un défaut de teinte. Comment je fais pour l'enlever? Tu sais, il y a du monde, là, mettons, je te donne un exemple, quelqu'un, il dit, hey, moi, ça m'est jamais arrivé, il goûte brûlé. Je goûte, tu as raison, il goûte brûlé. Mais j'ai dit, j'ai l'impression que c'est parce que tu as trop de pierre dessus. Il a lavé, le défaut est parti.
Wow!
Mais la pierre de sucre, c'est ça que ça fait. Ça va donner un goût brûlé si ça commence à brûler au fond de la panne parce que ça change le transfert de chaleur. Mmh. C'est ça, là. Mais ça arrive, les gens, souvent, c'est par inquiétude ou parce que là, ils pensent qu'ils ont fait un sirop, mais vraiment merveilleux. Là, ils nous le font goûter.
parlant de sirop merveilleux, est-ce que tu crois que le développement de cette quête de saveur-là passe aussi par des concours, des compétitions? On parlait de la commanderie de l'érable. Il y a comme une grande soirée chaque année. Est-ce que c'est par là que ça va se passer, par la glamourisation, si on veut, du sirop?
Parce qu'il arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que les gens aiment. Puis ça, il n'y a rien de mieux que de passer ton sirop dans un jury. Autant, c'est très formateur pour le jury, c'est très formateur pour les gens qui participent au concours. Hein. Participer à un concours, ça ne s'arrête pas là. On envoie les commentaires. Ben, premièrement, nous autres, chez Érable et Chalumeau, on s'implique depuis plusieurs années dans le concours de la Grande Sève. Puis ce concours-là, cette année, on est encore comme directeur du concours. Donc, on s'est occupé du règlement, on s'occupe de former le jury, on s'occupe de que tout soit fait selon les règles de l'art à l'aveugle et tout ça. Bon. Et puis, quand on a pris la direction du concours, on s'est dit, on veut en faire un vrai concours. On veut vous aider à faire un vrai concours parce que, tu sais, la plupart des concours qu'on voit aujourd'hui dans le vin, dans le domaine du vin, tu sors de là avec 100 gagnants, puis ça dilue, puis nous autres, il y a 5 régions, 6 gagnants par région, puis 6 gagnants provinciaux, puis un grand gagnant. Ça s'arrête là. Mm-hmm. Fait que dans chaque région, on donne les 6 meilleurs. À l'intérieur de ça, on donne la médaille d'or, argent et bronze dans chacune des régions. Chacune des médailles d'or de chaque région se retrouve en compétition pour le meilleur sirop. Puis encore là, tu as or, argent, bronze dans les 3 meilleurs. Mais ça, c'est intéressant, mais l'expérience comme juge, c'est merveilleux parce que là, tu goûtes de très bons sirops. Mmh. Puis l'expérience pour le producteur, c'est qu'on lui envoie des commentaires et tu vois, là, on va être en préparation de la capsule pour inviter les gens à participer à ce concours-là et on va leur dévoiler ce que les gens ont, ce que les juges ont aimé l'année passée. On va leur dire, hey, quand tu vas choisir ton sirop que tu mets dans le concours, oublie pas que les 6 gagnants l'année passée là, de chaque région avaient un goût d'érable très développé, un petit peu de caramel, mais pas trop. Puis la couleur, là, c'était pas les plus pâles. Fait que, fais pas juste regarder la couleur, goûte ton sirop, envoie-nous quand même ton sirop préféré, uh-huh. Prends le temps d'égoutter. Ouais. Mais tout en sachant que le goût d'érable, ça reste une valeur importante au niveau du classement. Quand les juges y goûtent, c'est parce que quand t'en compares deux, puis qu'à un moment donné, il y en a un qui goûte plus l'érable que l'autre, ben, tu lui donnes plus de points, c'est sûr. Mm. Mais quand t'en prends une fois par année, tu le sais pas,
Tu t'en rends pas compte, non.
Un juge là, va goûter dans sa journée une 60aine de sirops.
Ça doit pas être simple de se...
Faut faire des pauses. Hein? Faut faire des pauses, puis faut pas l'avaler.
Oui, parce que aussi bon que ce soit, à 60 euros, on finit, ça doit finir par...
On sature vite, oui. Mais c'est super important parce que ce que ça vient faire, ça vient montrer que à l'intérieur de tout ce qu'on fait, il y en a des meilleurs. Tout le monde est capable d'en faire des meilleurs. Tout le monde en a un très bon sirop parce qu'à chaque jour, on ne fait pas le sirop identique. Ouais. On en a tous un dans notre production qui est meilleur que les autres. Le mettre dans le concours, ça vient nous montrer, hey, par rapport aux autres, moi, je suis où?
Puis même le producteur, pour sa recherche, lui aussi, ça le force à choisir parmi ses sirops. Exactement. Lequel est le meilleur selon lui. Ça demeure, il y a quand même une portion personnelle aussi là-dedans.
C'est sûr. Puis...
Écoute, le temps file, mais je m'en voudrais de ne pas parler de ce qui est le plus important chez toi, de parler un peu du projet de Érable et Chalumeau, qui, je dis un projet, mais c'est très, très bien établi maintenant. Est-ce que tu peux me parler un peu de où c'est venu Érable et Chalumeau, de ce que c'est devenu? Comment ça a commencé? C'est une bulle qui est passée par là? Comment c'est parti, cette aventure-là?
Écoute, c'est une drôle d'aventure parce que moi, personnellement, dans mon profil de carrière, je faisais presque plus d'acériculture. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été sollicité à un moment donné par Martin Picard pour écrire dans son livre de cuisine.
OK.
Et puis, moi puis mon épouse, qu'on faisait presque plus d'acériculture, on a toujours aimé ça, mais professionnellement, on n'en faisait presque plus. Et puis, il a écrit dans son livre, qui a gagné meilleur livre de cuisine au monde, en passant, on a écrit la section sur le sirop d'érable.
OK.
Wow. Ouais. Et puis, après ça, ils ont fait l'émission « Un chef à la cabane ». Puis, comme on avait eu une belle collaboration pour le livre, Martin Picard m'avait demandé d'être dans l'émission. Mais moi, je ne connaissais pas nécessairement le pouvoir de la télévision sur le public.
Ce que ça allait donner après, oui.
Oui, c'est ça. Puis, ça m'a obligé à me remettre dans le bain, répondre aux questions à Martin, me relancer un peu, faire un peu de petits projets pour répondre à ces questions parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Hein. Et puis... Le public des acériculteurs, surtout, qui voyait qu'est-ce qu'on faisait, voulait poser des questions. Puis là, chaque samedi matin, là, je refusais des amis Facebook. Parce que les gens me demandaient pour être amis Facebook.
Ouais.
Le pouvoir de Facebook, c'est ça. Hein? Fait que moi, je faisais juste ça. Puis un jour, ma blonde, elle dit, tu peux pas faire ça. Elle dit, tu as décidé d'accepter d'être à la télévision. Tu peux pas refuser. Fait que là, elle dit, tu vas t'ouvrir une page professionnelle. C'est là qu'on a créé la page Stéphane Guy, biologiste. La page Facebook. Puis là, ben, les gens, ils pouvaient être s'abonner à la page.
Ils pouvaient être amis de la page, oui.
Ils pouvaient être amis de la page, mais rapidement, une journée, on a mis une petite vidéo, puis là, on a eu comme 4000 vues sur une vidéo. Là, on était là, mon Dieu, on peut faire n'importe quoi là-dessus.
qu'on va souhaiter bonne fête à Huguette.
Non, mais tu sais, on faisait une petite vidéo à cette école, puis tu sais, on est tous les deux biologistes, fait que là, la démarche scientifique, puis donner le conseil judicieux, tout ça, là, on était rendus. Puis là, l'émission aussi, il coupait beaucoup, tu sais, au montage, il coupe beaucoup, puis il perdait beaucoup d'informations. Fait que là, les questions qu'on avait, c'est parce que c'était pas complet dans l'émission. Là, on s'est dit, pas pour répondre individuellement à tout le monde. Fait qu'on faisait une petite capsule pour répondre à ce qui n'avait pas été donné dans l'émission, mettons. Puis, on était rendu qu'on prenait notre vendredi de congé.
Okay.
On a arrêté de travailler les vendredis pour faire des capsules.
C'est déjà un engagement.
on était comme rendu à l'étape où on voulait réorienter notre carrière. Puis on s'est dit, pendant cette période-là, on fait ce que chez nous pour s'amuser, on est artisanal. Et puis on fait des capsules en attendant, puis on s'amuse. T'sais. Puis on faisait ça, ça rapportait rien. Là, ça sortait de notre poche, ça nous coûtait de quoi. On avait acheté des équipements pour filmer, tout ça. Puis on le faisait au départ pour s'amuser. Puis un jour, il y a un manufacturier qui m'a dit, écoute, j'aimerais ça commanditer ce que vous faites. Il dit, on aime ça, puis il dit, c'est bon pour l'industrie, puis il dit, on aimerait ça vous aider financièrement. C'est là qu'on a fait le site web. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand tu mets tes vidéos hébergées chez quelqu'un d'autre, ils sont plus à toi. Fait que là, on a fait le site web, nos vidéos sont hébergées dans un serveur qui nous est dédié. Et puis, on a commencé ça plus sérieux, prendre des commandites. Pendant 5 ans, mon épouse a été temps plein. Moi, je n'étais pas capable de remplacer mon revenu, mais mon épouse a réussi à remplacer 100% de son revenu pour s'occuper des réseaux sociaux puis tenir le site vivant, puis préparer la recherche pour dire ça va être quoi la prochaine capsule. Mm-hmm. Puis moi, on commençait ça de même. C'est notre fils qui nous a montré à faire tout ça. Lui, il avait de l'habilité avec tous ces systèmes d'audio numérique-là. Et puis, ça a parti comme ça. Puis, tu vois, tranquillement, pas vite, on a focusé vers ce quoi on est bon, nous autres. C'est vulgariser, en fait. Vulgariser, trouver l'information, aller la chercher, l'expliquer aux gens, essayer de donner... où on en est aujourd'hui sur un sujet en particulier. Et puis, c'est ce qu'on fait. On a eu la chance de pouvoir... à un moment donné, on était rendu à l'étape où on passait beaucoup de temps à trouver des commanditaires, à aller chercher de l'argent, faire de la facturation. On était un peu dévié de ce qu'on a à faire. Un jour, on a réussi à établir un partenariat avec un seul commanditaire. Et puis, ça nous a permis de juste focusser sur nos capsules puis améliorer l'information qu'on donne aux gens.
Puis là, aujourd'hui, donc, là, j'en comprends que vous êtes capable de vivre de Érable et Chalumeau. C'est ce qui...
Moi, depuis le mois de juin, moi et Edith, on fait juste Érable et Chalumeau.
Ça a été un gros mois de juin.
on est déménagé, j'ai quitté mon emploi, puis on fait juste Érable et Chalumeau.
Ça serait quoi la capsule qui a été la plus vue sur Érable et Chalumeau?
La capsule la plus vue sur... Ben, écoute, on fait pas souvent des capsules grand public, OK? Fait que là...
Ouais, c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent, Érable et Chalumeau est quand même assez... C'est assez spécialisé, là. Il y avait une capsule récemment sur combien devriez-vous vendre votre sirop en fonction. Puis c'est très, très, très détaillé, très, très complet. Mais ça ne s'adresse peut-être pas... Tu sais, on parlait d'un chef à la cabane tantôt.
Nous autres, on ne s'est jamais adressé grand public. Donc, on n'a pas beaucoup de capsules grand public, mais ces capsules grand public-là, c'est sûr qu'ils sont très regardés. OK? Et la capsule, depuis le début, là, la capsule la plus écoutée sur notre site, c'est « Faire du beurre d'érable à la maison ». Puis c'est drôle parce que cette capsule-là, je ne voulais pas la faire.
OK.
Je ne voulais pas la faire. C'est beaucoup mon épouse puis mon fils m'ont dit « Écoute, tu fais du beurre d'érable à toi et moi. Tu vas montrer au monde comment faire, puis c'est tout. Hein. » Il n'y a pas un mois qu'il n'y a pas au moins 1000 visites dessus.
Sur cette
ouais, puis là, ça doit faire 7 ans qu'elle est en ligne. puis ce mois-ci, il y en a eu 6 000 okay, dessus. Mais ce mois-ci, notre capsule qui a été la plus populaire, c'est vraiment le prix du sirop avec 24 000 vues. Là.
Ce qui est quand même considérable. Là.
Bien, on considère qu'à peu près, tout le monde nous dit que 20 25 000 acériculteurs. Okay? Donc, nous autres...
Ultimement, soit tous les acériculteurs l'ont vu ou s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas retenu l'information la première fois puis l'ont écouté deux fois.
Non. Mais nous autres, on a la chance, on est hébergé chez une entreprise qui est vraiment super. C'est que nous, on sait si les gens viennent plusieurs fois, la réécoute deux fois, on peut les soustraire. Fait que nous autres, visiteurs uniques, mettons, je te dis, au mois de mars, on a eu 37 500 visiteurs uniques.
Wow!
Sont venus 65 000 fois, okay? Et ils ont ouvert 1 455 000 pages.
C'est énorme.
Au mois de mars. Là.
C'est okay? Énorme.
Oui, c'est ça. Puis tu vois, si je regarde depuis le début, depuis janvier, on est rendu à 2 600 000 pages ouvertes.
Imagine si tu faisais plus de capsules sur le beurre d'érable.
Écoute. Au global, c'est ça ne comprend pas les réseaux sociaux. Là.
Ouais.
On parle juste sur notre site. Il y a un besoin. Il y a un besoin. On essaie de le faire du mieux qu'on peut, puis ça nous pousse toujours à aller plus loin. Puis, tu sais, quand tu es rendu que tu t'achètes une érablière pour répondre à des questions.
Oui, oui, non, c'est
quand même le fun.
Quand je parlais d'engagement tout à l'heure, c'est un gros engagement, mais en même temps, quand on est passionné comme ça, j'imagine que c'est pas si problématique. Là. Dans la catégorie « j'aime mon travail », ça paraît. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de te voir, ton bureau est juste en avant de la bouilleuse. Fait que c'est quand même... c'est surprenant, mais ça dépeint le personnage. Tu donnes des conférences aussi? Ou des,
ça m'arrive. J'ai pas énormément de temps. J'ai pas beaucoup de temps pour ça parce que ceux qui ont déjà monté des capsules, c'est juste la recherche pour en faire une. Des fois, il n'y a pas de réponse, donc il faut faire un petit dispositif. Dispositif. T'sais, je donne un exemple. Le monde posait toujours la question de la vitesse, à quelle vitesse il faut percer. J'ai fait des tests, j'ai coupé les arbres, j'ai regardé au microscope les coupes. Puis s'il y avait des mèches qui coupaient mieux, haute vitesse, basse vitesse, en tout cas. Ben, parce que c'est un petit projet qui nous a demandé peut-être de 200 heures de travail pour donner 3 capsules.
Ben oui. Oui, oui, non, c'est du travail. Là. Est-ce que l'ensemble de vos capsules, vous les faites par vous-même? Bon, tu parlais que il y avait un commanditaire de global, là, mais est-ce qu'il y a des centres de recherche aussi qui sont associés à ça ou c'est vraiment on le fait, puis après ça, voici les résultats selon nous? Puis,
Bien, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on est à l'affût des articles scientifiques des centres de recherche. On les vulgarise. On en parle, on recommande aux gens d'aller les lire. Mais quand il y en a un très bon, on ne le passe pas sous silence. Nous, on va en parler. Le Centre ACER fait des très beaux projets. Hein? Donc, quand ils sortent quelque chose, la plupart du temps, on va en parler. On va dire aux gens, hey, allez lire ça, passez pas à côté de ça. Il y a une information extrêmement pertinente à cet endroit-là. Là.
Ouais.
Fait que ça, nous autres, on le fait toujours. Il y a des questions comme ça. Mais nous autres, le support qu'on a, c'est clair, c'est les équipements La Pierre qui nous fournit l'ensemble du budget. Puis eux autres sont juste contents d'offrir ça aux gens parce qu'ils nous ont dit un jour, si l'industrie va bien, on va bien.
Bon, ce qui n'est pas faux, là.
Puis on trouvait ça bien le fun. Puis ce qui fait que je suis temps plein, c'est qu'ils me font tester des équipements. Puis ils veulent s'améliorer, donc ils nous ont donné un mandat, puis ça me permet d'être temps plein en acériculture. Mais en gros, on a les producteurs du Nouveau-Brunswick aussi qui nous supportent.
OK.
On a une commandite, ils sont là, on a quelques petits commanditaires. Là, puis dans les conférences, à chaque année, on va donner une conférence à l'Assemblée annuelle des producteurs du Nouveau-Brunswick. Ça fait partie de l'entente qu'on a avec eux.
Okay.
Et puis, c'est vraiment le fun. Mais sinon, on n'a pas d'autres supports financiers pour nous aider. Là. On n'est pas bon là-dedans. On n'aime pas ça. C'est vraiment ça. Autant moi que mon épouse, Edith, on n'aime pas ça. Quand tu n'aimes pas ça, ben, tu fais le minimum. Hein?
Oui, ben en même temps, on voit assez rapidement ce que vous aimez. Puis dans ce que vous aimez, vous êtes... tout à l'heure, je parlais de sommité de l'érable au Québec. Je pense que le mot est juste. En tout cas, je voulais te remercier vraiment beaucoup pour ce temps-là. Je ne sais pas s'il y a peut-être... je finirai peut-être avec un conseil, une demande de conseil pour les producteurs. C'est toujours... je sais que ça doit être difficile, là, mais peut-être un conseil en plein au beau milieu de cette saison des sucres.
On arrive à la fin. Okay? Moi, je vous conseille premièrement de participer au concours de sirop. Okay? Puis d'ailleurs, je t'invite à être on va avoir cette année des pour faire vivre l'expérience à des gens, des médias, on va avoir une table. Vous allez être comme des juges, mais on ne va pas compter vos points.
OK.
Vous allez vivre l'expérience, mais sans compter les points. Juste pour que vous puissiez en parler aux gens.
Voir le feeling de ce que
vous
faites.
Voir le feeling. Si ça t'intéresse, tu es invité.
Certainement. Certainement.
Et puis, mais le principal conseil que je vais donner, c'est que dès que la saison va terminer, allez désentailler au plus vite. La blessure de l'érable commence à se cicatriser la journée qu'on enlève le chalumeau. Et j'ai déjà vu des érablières. Ben, d'ailleurs, des fois, tu arrives, t'en oublies, puis tu vois ce que ça fait désentailler tard. La présence d'oxygène dans la blessure va faire en sorte que le mécanisme de défense va s'amorcer. Puis, on y a prélevé du sucre et on a tiré ce qu'on avait. Puis, la moindre des choses, c'est d'aller y enlever ça au plus vite.
Fait que même si on est brûlé, on est fatigué, la saison est finie.
Oui, c'est ça. Pour donner un exemple, moi, je vais aller désentailler avant de laver ma cabane.
OK.
Moi, tu peux être sûr que une fois que j'ai décidé que c'est fini, deux jours après, tout est enlevé.
Tout est enlevé. Puis
si j'ai pas le temps de laver les tubes comme il faut, tout ça, mais ils vont au moins être enlevés.
OK. Parfait. Bon, bien, on espère que tous les gens seront à l'écoute de ce judicieux conseil. Et là-dessus, bien, je te remercie beaucoup. Je te laisse retourner à ta cabane, puis je te souhaite une belle saison, belle fin de saison des sucres, Stéphane.
Hey, un gros merci, Vincent.
Merci.
Salut.
J'espère sincèrement que vous avez apprécié cet entretien avec Stéphane Gay. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur son site web Érables et Chalumeaux pour tout connaître, ou presque, sur la sériculture. Je tiens à le remercier une fois de plus pour son temps et sa générosité, surtout en pleine période des sucres. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des fleurs ou le pot à nous faire parvenir, vous pouvez le faire en nous écrivant au balado@laterre.ca ou encore en nous écrivant un message privé sur notre page Facebook. Je vous rappelle également que pour vous tenir au courant des actualités agricoles de la semaine, vous pouvez non seulement consulter La Terre de chez nous dans son édition papier ou numérique, naviguer sur notre site web au www.laterre.ca ou encore écouter notre autre balado à la une cette semaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre rencontre.